you're about, Hugh. Are you raising or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Ludio et Boris Pino. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation signée Olivier Guérin. Ce soir, Anna Sigalevitch et Fabienne Pasco se font face. À notre affiche, le froid augmente avec la clarté. D'après Thomas Bernhard, mise en scène Claude Duparfait au Théâtre de la Colline. Médée Matériaux de Heiner Müller, mise en scène Anatoly Vassiliev, actuellement à l'affiche au Théâtre des Bouffes du Nord. Nous évoquerons plus rapidement Ma folle Otari de Pierre Nott, c'est au Lucernaire, et Ceux qui avaient choisi de Charlotte Delbault, c'est au Théâtre de la Contrescarpe. Vers 21h20, Xavier Martin nous entraînera dans le petit salon pour parler non pas des Molières, mais de Molières. Puis en fin d'émission, Boris Pino passera un coup de fil à Louise Van Est, chorégraphe pour sa pièce Thériance, qui va être créée bientôt aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Puis bien sûr, il y a encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le spectacle Amphitryon, de qui ? De Molière. Dimanche 4 juin à 17h à la Grande Écurie de Versailles dans le cadre du festival Le Mois Molière. On le sait depuis longtemps, Claude Duparfait aime Thomas Bernhard. Il en avait été le double saisissant dans Des arbres à abattre, mis en scène par Célipote et Claude Duparfait lui-même il y a quelques saisons. Il y revient en adaptant librement deux livres de l'écrivain autrichien, L'origine et la cave, soit deux romans autobiographiques qui reviennent sur l'enfance et l'adolescence de l'auteur.
Ce qui m'occupe dès les premiers jours, c'est l'idée de suicide. Étouffer la vie pour ne plus être forcé de la vivre. Mettre fin à cette misère et à cette détresse en me pendant. Par exemple, dans la petite pièce où l'on range les chaussures au rez-de-chaussée. Cela me paraît la seule chose à faire. Mais je ne la fais pas.
Toujours quand il travaille le violon dans la petite pièce où l'on range les chaussures, elle lui a été attribuée par Krumkranz parce qu'il travaille le violon, il pense au suicide.
C'est dans la petite pièce où l'on range les chaussures que les possibilités de se pendre sont les plus grandes.
Cette heure de violon où il se retrouve dans la petite pièce aux chaussures, presque dans l'obscurité, où l'odeur des chaussures des pensionnaires s'épaissit de plus en plus, cette heure est pour lui la seule possibilité de fuite. Son entrée dans le cabinet aux chaussures signifie qu'il commence au même instant à méditer sur le suicide. Et l'intensité de plus en plus accrue de son jeu signifie qu'il est occupé à penser au suicide avec une intensité de plus en plus accrue. Le violon est pour lui beaucoup moins un instrument de musique qu'un instrument a déclenché sa méditation sur le suicide.
Le froid augmente avec la clarté. D'après Thomas Bernhard, en ce moment au Théâtre de la Colline à Paris, un spectacle qui a été créé au Théâtre National de Strasbourg. Projet, comme il est écrit, de Claude Duparfait. Fabienne Pasco, pour commencer ce spectacle-là.
Je dois dire que je n'y suis pas rentrée. C'est un spectacle qui m'a donné froid, à vrai dire, mais sans que j'y trouve vraiment la clarté. Je suis pas vraiment rentrée dedans parce que je me fais toujours du monde de Thomas Bernhard, pas l'idée de quelque chose de froid, justement, de glacé, mais de quelque chose d'un peu convulsif, toujours dans la passion, dans la la tentation de la mort, mais aussi la tentation de la vie malgré tout, la ratiocination, certes, la répétition, mais aussi quelque chose d'extrêmement musical, extrêmement sensuel dans l'écriture, dans le jeu des acteurs. Et puis c'est vrai qu'il nous a été donné de voir ces derniers temps de sublimes mises en scène de Christiane Lupa, où les acteurs prodigieux dirigés par Lupa donnaient une densité de vie, même sans parler, enfin, avait une intériorité qui irradiait, qui était d'une générosité magistrale. Et là, j'ai pas trouvé cette générosité dans le spectacle de Claude Duparfait, qui certes est habité par Thomas Bernhard, puisqu'il nous le dit beaucoup, et puis il l'a déjà monté, comme vous l'avez évoqué, mais je trouve l'exercice très cérébral. Mmh. Et donc, d'une cérébralité, il a beau diviser le personnage de Thomas Bernhard adolescent en quatre figures, deux femmes, deux hommes, et on va voir vieillir Thomas Bernhard, on va le voir déjà au début face à son grand-père, qui est le seul homme qu'il ait vraiment aimé, et qui est, alors là, Thierry Bosque, je l'ai trouvé remarquable.
Il est formidable, Thierry Bosque, voilà, c'est vraiment un acteur magnifique.
Ah oui, dans le spectacle, moi j'ai trouvé qu'il emportait la mise de très loin, parce que il est aimant, il irradie de lumière. Alors certes, il va condamner son petit-fils, qui est un garçon mal aimé, hein, puisque sa mère est une mère célibataire qu'il n'a pas vraiment désiré. Donc il trouve refuge dans de grandes promenades dans la forêt avec un grand-père, comme on les rêve, un grand-père philosophe qui lui apprend non seulement les arbres, mais à penser, qui lui cite les philosophes des Lumières, mais qui va quand même le pousser à aller dans un premier temps dans un collège dirigé par les nazis, et puis après la guerre, le collège sera dirigé par des catholiques, et on se rend compte que c'est à peu près la même chose.
C'est pour ce que dit Thomas Bernhard, en tout cas.
Pour le jeune Thomas Bernhard, donc au loin, dans le décor, on voit...
Le décorum change, mais voilà, pas les mentalités, vraiment.
Voilà, on voit la croix, l'ombre de la croix remplacer le portrait de Hitler. Bon. Mais j'ai trouvé tout ça très intéressant, très intelligent, mais froid, glacé, et ça correspond à la fin du spectacle où finalement on voit les acteurs démontent tout le parquet, on se retrouve, alors là c'est un peu pesant aussi pour ceux qui ont vu le musée juif de Daniel Libeskind à Berlin, on se retrouve avec cette impression du grillage qu'on a dans ce fabuleux musée qui est, c'est vrai, bouleversant, donc il veut trop en dire, Claude Duparfait, il veut évoquer les juifs, il veut évoquer cette Autriche compromise dans la Shoah qu'a tellement dénoncé Thomas Bernhard, mais bon, on ne sait plus bien. Et on est glacé à la fin.
Anna Segalevitch, sur ce spectacle actuellement à la Colline.
Je partage ce que dit Fabienne. C'est-à-dire que j'avais beaucoup aimé Des arbres à abattre, qui avait été monté en commise en scène, comme vous le disiez Arnaud, avec Céline Pout, que j'avais trouvé vraiment flamboyant comme spectacle, d'une justesse, d'une virulence absolument éblouissante. Et là, en fait, je l'ai trouvé collé à la vitre de son sujet, c'est-à-dire finalement presque écrasé par la fascination qu'il a pour Thomas Bernhard, même si l'idée me plaît, l'idée de départ, je trouve ça vraiment très intéressant de mettre ces deux textes ensemble, parce qu'on voit comme ça comment Thomas Bernhard s'est construit, comment il s'est fait. Enfin, le texte est franchement passionnant. Thierry Bosque, je partage complètement votre avis, je le trouve absolument, absolument génial en grand-père, parce que il a aussi une forme de distance, de légèreté, il est pas collé à la vitre, lui. D'évoquer la figure de Thomas Bernhard à travers ces quatre personnages me paraît, enfin ces quatre acteurs, pas ces quatre personnages justement, me paraît bien, parce que ça permet de en tout cas on sent le désir d'évoquer à la fois la complexité, la multiplicité de Thomas Bernhard et son côté protéiforme dans son voilà comme figure. On sent aussi très fort l'amour de Thomas Bernhard de Claude Duparfait, mais presque trop. C'est-à-dire que à vouloir porter tellement haut ce texte, à vouloir lui donner tellement d'importance, en fait, il le plombe. Il le plombe, et pour moi, il y a quelque chose qui se dégage, qui n'est pas juste, justement, avec cette langue de Thomas Bernhard. Et là, c'est paradoxal, parce qu'il le dit Duparfait dans sa note d'attention, il parle de l'écriture de Thomas Bernhard, qui est une écriture d'une colère dynamisante, salvatrice, qui fait qu'on se sent plus vivant. Voilà, il le dit. Hein. Or, pour moi, le dispositif qu'il met en place est assez lourd, et il est plombant. Voilà. Et il y a cette attention portée d'un acteur à l'autre. On voit en fait les coutures du spectacle, on voit la réflexion, on voit comment c'est construit. C'est bien fait.
Il veut trop bien faire.
Voilà, il veut trop bien faire en fait. C'est bien fait, mais du coup, à mon sens, on perd la moelle. On perd la moelle et la saveur de ce texte.
Alors, moi, je pense qu'on le perd pour plusieurs raisons. Je vais, hélas, pas vraiment faire pencher la balance de l'autre côté. Moi, j'étais très impatient de découvrir ce spectacle. Parce que, comme vous, j'ai beaucoup aimé Des arbres à abattre dans cette mise en scène, c'est l'hypote Claude Duperfait. Je l'avais vu deux fois. Il y avait notamment cette première heure, la monologue joué par Claude Duparfait dans son fauteuil à oreilles, immobile, qui était extraordinairement prenant, parce que c'était à la virgule le texte de Thomas Bernard. Alors, peut-être premier problème, celui de l'adaptation, qui enlève pour moi quand même beaucoup, beaucoup de la complexité de la pensée de Thomas Bernard, qui en fait en gros une sorte de nihiliste de plus. Ce qui me paraît extrêmement réducteur, mais c'est vrai qu'il m'a semblé que le montage, le découpage en tout cas, était vraiment dans cette ligne-là. Et ensuite, c'est vrai que les parties pris formelles, je crois que j'ai hélas adhéré à aucun, que ce soit la scénographie qui n'est pas un problème en soi, mais qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez évoqué effectivement ce sol qu'on défait, et puis c'est cet effet de tableau qui change de figure, on va dire, selon les moments, pourquoi pas, enfin c'est quand même pas beaucoup, et puis surtout moi c'est le jeu des comédiens, je pense qu'il y a un problème de direction d'acteur qui est quand même assez important, comme vous je partage le goût pour Thierry Bosque, qu'on a vu dans beaucoup de spectacles mis en scène par Bernard Lévy, qui est vraiment un comédien qui apporte, je l'ai vu seul en scène, des émotions extraordinaires, il
Annie
amène
Mercier aussi.
Annie Mercier, bon c'est une belle actrice, mais Claude Duparfait, enfin, c'est pas le problème des individus, c'est vraiment le problème du projet. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment attiré l'attention, si je puis dire, c'est cette façon qu'ont les comédiens, qui sont souvent, assez souvent, tous présents sur le plateau, la façon qu'ils ont de regarder celui ou celle qui a la parole, extrêmement monotone, qui m'a l'air sans enjeu. Il semble assez content d'être réuni sur le plateau, mais moi je me suis trouvé un petit peu exclu, tout comme l'utilisation de la langue allemande. Moi qui ne suis pas du tout germanophone, je veux bien qu'on entende du Thomas Bernard dans le texte, mais moi je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, puisque je ne comprends pas l'allemand. Je trouve ça un peu excluant quand même. Ça m'a gêné également. L'effet très éculé de dire ensemble à deux, trois voix les mêmes mots pour les souligner, c'est quand même qu'on attend autre chose concernant Thomas Bernard, tout est déjà tellement souligné. L'utilisation de la musique, pardon, je fais un peu une liste, mais qui m'a semblé ou paresseuse ou douteuse, selon les moments aussi, parce qu'il y a des... je laisserai peut-être Anna Sigalevitch développer sur cette question-là, mais là aussi, ce sont parfois des béquilles qui m'ont semblé bien, bien fragiles. Donc, problème d'adaptation, problème de mise en scène, problème de direction d'acteur. J'aurais aimé, hein, mais non. Mais encore une fois, comme vous le disiez, Fabienne Pascaud, c'est pas un spectacle indigne. Il y a du travail, il y a une envie de partager. Ça m'est passé tout à fait à côté, Fabienne.
Mais oui, moi, exactement la même chose. Mais peut-être qu'il a été, comme le disait justement Anna, il a été débordé par l'ampleur de la tâche et l'envie de trop bien faire. Et il n'a pas su communiquer un peu de vie à ses acteurs qui semblent pétrifiés par l'enjeu, par la passion que Claude Duparfait a de Thomas Bernhardt. Et tout ça est figé.
Pauline Lauriat, qu'on n'a pas citée, qui peut avoir une finesse de jeu, là, elle est quand même très en force tout du long, je l'ai à peine reconnue.
Alors que c'est vraiment une excellente actrice.
Oui,
hein.
Nous sommes d'accord.
On l'a vu chez Guillaume Vincent, on l'a vu chez Jonathan Châtel dans Petit Aïeul.
Chez Vincent McKaigne.
Oui, aussi. Ouais, elle est merveilleuse.
Et là, c'est très en force, c'est assez univoque là encore, m'a-t-il semblé.
C'est chargé d'intention, tout le temps. Et le jeune homme... voilà, encore plus que les autres dans un jeu un peu lyrique, pour pas dire pathos.
Florent Pochet, pour le citer quand même.
Oui.
Mais encore une fois,
c'est
sort de l'Irak.
Voilà, c'est pas qu'ils jouent pas bien, aucun d'eux. Hein, c'est tous. Bon, moi, j'ai quand même beaucoup aimé certains passages d'Annie Mercier, qui, je trouve, quand même arrive à reprendre une forme de précision, de quelque chose de concret avec les mots qui sonnent comme des couperets, tout son texte sur la brutalité du groupe, où elle évoque le le fait que ces souvenirs d'école où il y avait un infirme qui était absolument martyrisé et un prof de géographie qui était vraiment les deux boucs émissaires de cette école, ce qui était absolument insupportable et d'une violence extrême pour Thomas Bernard, ça je trouve qu'elle elle le donne très très bien à entendre. Et puis, par moments, il y a aussi, je trouve, une certaine beauté dans cette façon dont le Thomas Bernard passe d'un corps à l'autre. Voilà. Il y a des moments où c'est très un peu volontariste et ça marche pas, mais il y a des moments, il y a quand même des éclats dans le spectacle que je trouve beau.
Mais à vous écouter, en parlant avec vous, c'est vrai que ce soit pour Annie Mercier ou pour Thierry Bosque, j'ai l'impression qu'ils amènent quelque chose qui vient d'eux-mêmes dans ce spectacle, qu'ils y infusent quelque chose de plus ancien et de plus ancré dans un parcours de comédien, mais aussi un parcours de vie. C'est peut-être pas un hasard que ce soit les acteurs les plus capés qui amènent ces moments qui nous ont fait davantage vibrer.
Ils ont une voix déjà, hein, ouais. Annie Mercier, elle a une voix... elle a une voix exceptionnelle, comme burinée, comme travaillée par le vin, la boisson, la fumée de cigarette. Enfin, elle a une voix exceptionnelle. Donc déjà, ils apportent, Thierry Bosque aussi a une très belle voix. Donc déjà, ils apportent une musicalité qui leur appartient et qui renforce la musicalité de la langue. Parce que moi, je trouve que le jeu de Claude Duparfait est totalement sec. Alors qu'il peut être si brillant et si
subtil,
si intense et subtil, comme dévoré de l'intérieur, là. Mais là, je pense que oui, il admire trop le texte. Alors que dans il oublie un peu Thomas Bernard.
Oui, mais dans Des arbres à abattre, pourtant, c'était il y a un moment, son monologue du départ dans le fauteuil à oreilles qui durait presque une heure, où il était seul en salle. C'est un grand, grand souvenir de théâtre pour moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il n'y avait pas Célipo, peut-être.
Déjà, c'est pas clair. Déjà, ce qui s'est passé, ça peut se lire même dans le programme. Un projet de Claude Duparfait. Qu'est-ce que c'est qu'un projet? C'est une mise en scène? C'est un spectacle? Qu'est-ce que ça veut dire, un projet de Claude Duparfait? C'est déjà un peu prétentieux, ça.
Prétentieux, je ne sais pas. Peut-être que justement, c'est une volonté d'humilité. Pour dire je ne
pas
signe
sûr,
pas ou je
pas
non
sûr.
Bon là prenez attention Fabienne Pascaud, ils sont bien connus, ils sont redoutables, mais bon voilà, j'aurais aimé le Frog monte avec la clarté. D'autres choses à ajouter, Anna Sekalevitch?
Non.
Fabienne, bon, vous êtes parti sur une mauvaise pente, donc je vous arrête. D'après Thomas Bernard, c'est un projet effectivement de Claude Duparfait, c'est au Théâtre de la Colline jusqu'au 18 juin.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
À suivre dans La Dispute, Heiner Müller, Charlotte Delbo, Pierre Note et Louise Van Est. Avant cela, nous sommes invités dans le petit salon par Xavier Martinet. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Molière, what else?
What else?
À nous faire rire, Fabienne.
What else pour la 22e fois, même. Puisque c'est le 22e mois Molière, effectivement, pour 20 pièces de théâtre.
Moi, j'ai vu 20e, moi, on n'a pas les mêmes infos.
Il me semble que c'était le 22e.
Attendez. Ah oui, 22e édition. Oh là là, vous êtes formidable.
Il y a deux ans, c'était le 20e. Voilà, cette fois-ci, c'est bien le
22e. Pardon, j'ai complètement interrompu. Non, en fait, c'est parce que dans l'édito, le maire de Versailles parle depuis plus de 20 ans. Alors j'ai retenu 20 ans. C'est 22e édition, donc 21 ans, soyons précis.
21 ans, et en tout cas, ce sont bien 20 pièces de théâtre que vous pourrez voir. 20 pièces différentes à Versailles jusqu'à fin juin, 350 représentations. Et la programmation est intéressante si on t'y attarde, puisque le communiqué met en avant Amphitryon, comme, je cite, la pièce la plus poétique de Molière. Pas de Christophe Roch cette fois, mais de Stéphanie Tesson, qui mise tout sur la langue française apparemment, puisque ce qui séduit d'abord lorsqu'on lit l'œuvre ou qu'on l'entend pour la première fois, c'est la langue. Elle vous prend comme une mère, selon les paroles que Baudelaire applique à la musique, écrit-elle dans sa note d'intention. Classicisme donc et attachement au texte. Alors que d'autre part, le spectacle qui ouvrira ce mois théâtral jeudi soir sera le roman de Monsieur de Molière, adapté de Bulgakov et devenu depuis, on pourrait dire, un classique des réinterprétations de Molière, déjà joué à Versailles au moins en 2016 et adapté des dizaines de fois. Alors ces deux pièces, par ailleurs, donnent un peu le ton de ce qui se joue en ce moment autour de la présence de Molière au théâtre. D'un côté, les reprises littérales avec plus ou moins d'écart scénique, comme la série des Misanthropes, par exemple, depuis 2013 au Théâtre de l'Œuvre, à l'Odéon, à la Comédie Française, ou du côté du privé plus récemment, c'était Les Femmes Savantes par Catherine Yégel, avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri à la Porte Saint-Martin. De l'autre côté, ce sont les tentatives d'actualisation, de transposition, voire de réécriture, une tendance qui semble s'affirmer et bien signalée par Laurence Liban, par exemple, dans son article Molière mise à jour, l'Express en 2014. Par exemple, elle citait une réécriture à deux mains du Malade imaginaire par Jean-Louis Bauer et Adrien Philippe qui s'appelle La Grande Nouvelle, ou alors Le Tartuffe Nouveau de Jean-Pierre Pélaez, une satire joyeuse et colorée pour Culture Box, montrée au Théâtre du Chêne Noir et puis au Festival d'Avignon 2014 quand même. En fait, sur les 15 pièces de Molière ou inspirées de Molière depuis 2013 que j'ai pu recenser, trois seulement sont des reprises absolument classiques. Confirmation d'ailleurs au mois Molière avec deux autres pièces qui sont des réécritures et inventions. Une pièce québécoise, Tartufferie en Nouvelle-France. Et puis une adaptation du texte par une compagnie burkinabé, Bada, le malade imaginaire, qui était déjà d'ailleurs au Off d'Avignon en 2015. Intéressant. Concernant le In d'Avignon cette année, ce sont deux réinterprétations libres qui sont en bonne place. En ouverture, encore un roman de Monsieur de Molière par et pour les adieux de Franck Castorf. Et puis une mise en abîme de mise en abîme par Clément Hervieux-Léger au Festival d'Avignon. C'est Molière et la querelle de l'école des femmes. En fait, c'est une synthèse entre deux pièces, la critique de l'école des femmes et puis l'impromptu de Versailles, elle-même créée par Molière dans un but directement polémique, puisqu'il s'agissait de répondre aux critiques sur l'école des femmes à l'époque, une manière aussi pour Clément Hervieux-Léger de mettre en scène des élèves dans une réflexion sur la vie d'une troupe et les contraintes du théâtre. Alors pour finir, que veut dire réécrire Molière? On se rend compte que pour certains, c'est transposer les situations, les réactualiser. Par exemple, si c'est une pièce polémique, on modernisera la cible, comme dans La Grande Nouvelle. Pour d'autres, c'est ne pas hésiter à changer le texte et bien sûr, abandonner l'alexandrin. C'est le cas du Tartuffe Nouveau, dans une volonté là, explicite de réagir aux mises en scène peut-être trop extravagantes et d'offrir, je cite, une véritable réactualisation par l'écriture. Jean-Pierre Pélaez se fait d'ailleurs lyrique. Il dit « Laissez l'esprit de Molière pénétrer en moi, décrire ces hypocrites contemporains. » Reste l'avis du public dont je pourrais vous parler, si vous voulez, avec un sondage du Figaro. Côté critique, peut-être Molière est un des écrivains qui donne lieu au plus de variété d'interprétations et de points de vue. La Grande Nouvelle est une tentative prometteuse sur l'intrigue, avec déplacement des personnages, dans une contemporanéité surtitrée, l'épouse d'Argan transgenre, sa fille ado gothique, mais jugée ratée par la plupart des critiques, la moins sévère. Molière n'a pas été réinventé, mais ça valait le coup d'essayer. C'était Philippe Chevillet dans Les Échos en 2014. Ainsi, vous voyez que retrouver l'esprit de Molière à son prix, cela donc vaut-il la peine d'essayer de réécrire Molière ?
Alors, on salue d'abord Philippe Chevillet qui ne peut pas nous écouter parce qu'il est enfermé dans une boîte pour couvrir les Molières qui ont lieu ce soir. Dire tout notre part que cet amphitryon dont vous avez parlé, qu'on verra dans ce mois Molière à Versailles, nous ferons gagner des places, je le rappelle, en fin d'émission pour ce spectacle. Il y avait un misanthrope au Théâtre de la Bastille, je ne sais pas si vous l'avez cité.
Je ne l'ai pas noté, celui-ci, ça en fait donc 4.
Vous vous en souvenez, un jeune collectif.
Oui, moi j'avais bien aimé, oui.
Moi, un peu moins, on va dire ça comme ça. Et rappelez que Côte du Parfait a été Tartuffe, sous la direction de Stéphane Brunschweig. C'était une très belle mise en scène et très angoissante et terrible de Tartuffe par Stéphane Brunschweig. Alors, que Molière, que vous inspire tous ces Molières
et à noter, ce qui semble très étonnant, c'est que dans le privé, à la Porte Saint-Martin, il va y avoir deux Tartuffes successifs.
Ah bon,
le premier mis en scène par Michel Faux, avec Michel Faux et Bouquet. Mmh. Et l'année d'après, un Tartuffe mis en scène par Peter Stein, avec Pierre Arditi et Jacques Weber. Donc mais vous voyez, je vous en apprends des choses.
Hein. Ah, mais,
donc vraiment que le privé, la Porte Saint-Martin, prennent remettre Molière à l'affiche après les femmes savantes, c'est quand même un phénomène Molière.
Ça a très bien marché les femmes savantes. Non
oui, ça a bien marché. Il faut dire qu'il y avait le couple Bacri-Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Ouais.
Qui puis était, Michel Bouquet qui retravaille avec quelqu'un d'autre.
Ben, bien sûr. En plus, c'est un spectacle qu'il n'a pas joué. Oui, mais Michel Faux était un de ses élèves. Hein.
Oui,
il a une
absolument.
Passion pour Michel Faux. Donc, je pense que ça promet d'être un spectacle. Ça,
on a envie d'y être.
Ben voilà,
d'ores
tout
et déjà.
À fait, tout à fait. Mais Molière, c'est vrai qu'on attend avec impatience le Castor à Avignon. Ça, peut-être qu'il intéresse autant aujourd'hui parce qu'il pose le problème de l'artiste face au pouvoir aussi. Ça, c'est une problématique intéressante. Louis XIV n'est jamais très loin dans ses pièces. Et la cour, est-ce que pense la cour? Est-ce que la cour va interdire? Est-ce qu'on peut dire de la cour? Donc, il y a toute cette problématique-là qui, par-delà le fait que Molière décrit nos contradictions intimes comme personne, il y a le rapport au politique qui le rend quand même très, très proche de nous.
C'est vrai qu'entre Molière et Versailles, on est vraiment dans l'actualité aujourd'hui, avec les Molières et les visites au Trianon. Anna Segalevitch, Molière.
Molière, est-ce qu'il faut le réadapter, est-ce qu'il faut le réinventer ou est-ce qu'il faut le monter tel qu'il est? Moi, je pense que c'est pas mal d'essayer de le jouer, en fait. Ouais. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais. Mais ça englobe la problématique de la réécriture des metteurs en scène de toutes les pièces où on a envie beaucoup de réécrire les choses aujourd'hui.
Alors, des réécritures plus ou moins fortes, pardon, je vous interromps, mais je pensais à propos de Misanthrope, monté par Civier il y a quelques temps, il y a eu un Don Juan qui m'a beaucoup moins convaincu cette
réussi,
saison.
Très réussi, Misanthrope de Civier.
Très réussi. J'ai pas encore vu, mais on le verra l'an prochain aussi à Paris, L'Avare, monté par Ludovic Lagarde, avec Laurent Poitrenaud.
C'est un beau spectacle.
Ça, j'attends de voir ça, parce que Laurent Poitrenaud en Avare... C'était créé à Reims, à la Comédie de Reims. Ça fait très envie, vous le confirmez.
Il est magnifique.
Voilà,
mais moi, je pense aussi au Molière de Gwenaëlle Morin, que j'avais trouvé absolument vraiment important et réussi d'une simplicité totale.
Bah, c'était les Molières de Vitesse.
Oui, les Molières de Vitesse, absolument.
Oui. Qui dataient de 1978 et qui avait été un événement, un choc dans la manière de monter les Molières, puisqu'il les avait montés à la file, quatre grands Molières, et avec les mêmes acteurs, et donc ça devenait un feuilleton Molière qu'on suivait, et que c'était magnifique.
Formidablement repris Gwenaëlle Morin, qui avait même proposé une nuit à Nanterre, avec les quatre à la suite.
Jouer à toute berzingue comme ça, ou vraiment accessible à tout le monde, enfin c'était un très très grand...
Pierre Molière très proche, pour le coup, de tous et de toutes.
Oui, absolument, vraiment. Et puis un Molière vraiment universel, sans point de vue non plus trop marqué, où on fait entendre cette langue, on la joue, on avance, et on est porté par, tout simplement par son énergie et le sens de ce qui est dit et qui apparaît tout seul de façon absolument limpide. C'était incroyablement lumineux. Moi, j'ai trouvé la façon dont Gwenaëlle Morin avait remonté ça. Voilà.
Gaël Martinet, vous avez promis des avis du public.
Ah oui, des avis du public. Donc c'était un sondage du Figaro en fait en 2009. Peut-être que je peux vous passer les personnages préférés. Cependant, c'est pas inintéressant. C'est assez attendu. Donc c'était 31% des personnes interrogées, lecteurs du Figaro, pour Tartuffe.
Ah bah non, mais faut que vous nous fassiez une devinette. Ah, bon.
Moi j'aurais pas dit Tartuffe. Hein.
Vous auriez pas dit Tartuffe.
Don Juan, moi je pensais.
Ah oui, moi j'aurais dit Alceste.
Mais alors justement, Don Juan, on pourra y revenir aussi. Parce qu'il m'avait semblé qu'il était un peu oublié. Par contre, le deuxième, c'était Monsieur Jourdain.
Donc,
ces deux personnages, il m'a semblé peut-être un peu scolaire, de la même manière que pour les pièces préférées, c'était également celle qu'on avait en cinquième ou en quatrième.
Le bourgeois gentilhomme et l'avare.
L'avare, le malade imaginaire, le bourgeois gentilhomme et Tartuffe, effectivement. Les fourberies de Scapin, on ne les trouve pas, par contre. Et concernant Don Juan, effectivement, peut-être pensiez-vous, Arnaud, au spectacle de Jean-François Sivadier,
absolument.
À l'Odéon. Alors là encore, il y avait un mot de Philippe Chevillet assez intéressant, qui trouvait que c'était un cirque noir et rock, puisque si j'ai bien compris, la mise en scène était quand même assez puissante. Un road movie pour un autre journal dont je me rappelle plus, c'était Cineweb. Don Juan, monstre de foire pour Libération. Et puis il y avait quand même un petit bémol, c'était Jean-François Sivadier, tente une mise en scène trop chargée, là encore, sauvée par les acteurs. On retrouve un peu de manière sempiternelle cette question.
On avait mis
Dieu
sait qu'on aime et Jean-François Sibadier et Nicolas Bouchaud qui était l'interprète de ce Don Juan, mais là, pour moi, ça n'avait pas pris.
Et il me semblait aussi, de manière un peu étonnante, disons relativement à la notoriété du Don Juan dans le corpus de Molière, que c'était intéressant de voir que c'était pas la pièce la plus reprise, peut-être parce que c'est pas la plus facile, peut-être parce qu'on la préfère en opéra, je ne sais pas. Mais
c'est vrai. Et puis la dernière fois, le dernier Molière Comédie Française de Le Don Juan, c'était Jean-Pierre Vincent, me semble-t-il, avec cette fin. Bon, pour celles et ceux qui reverront ce spectacle, sera sans doute repris. Un peu inattendu. C'était pas pour moi le meilleur souvenir de Jean-Pierre Vincent en mise en scène, qui est un grand metteur en scène.
J'avais plutôt aimé moi ce spectacle.
C'est compliqué, Don Juan aussi.
C'est compliqué, Don Juan, bien sûr.
Fabienne Pascot, des souvenirs de cette mise en scène de Jean-Pierre Vincent, aucune.
Aucun, non, pas trop, sauf que la femme avait posé question, oui.
Ouais, bon.
Mais c'est un grand connaisseur de Molière, bah, Jean-Pierre Vincent.
Hein, bah, l'école des femmes aussi, avec Daniel Auteuil,
il y a peut-être 10 ans,
ça c'était il y a 15 ans.
Oui. Plus
oui.
Didier Buzas avait aussi monté avec Pierre Arditi. Non, mais c'est Molière, pourquoi le retraduire? La langue de Molière est si belle et tellement compréhensible encore aujourd'hui, parce que qu'on dise que Racine et Corneille soient peut-être parfois un peu compliqués à comprendre dans les tournures, dans les mots, dans le vocabulaire, mais Molière, c'est d'une limpidité exceptionnelle. Donc,
on l'avait très bien entendu dans ce Misanthrope, mise en scène par Sibadier, c'était aussi pour partie le cas dans le Tartuffe, mise en scène par Luc Bondy.
Qui était aussi
très accessible, très immédiatement accessible, sans toucher évidemment une virgule des mots de Molière.
Et ça, c'est intéressant parce qu'on s'autorise ça au théâtre. Vous imaginez si en musique on changeait les. Non, mais
les on va changer la réa, alors.
Mais bien sûr.
Non, mais c'est quand même intéressant d'accepter ça au théâtre.
Bon, eh bien, ce sera un prochain petit salon sur la musique, peut-être cette fois. Quelques recommandations à présent des critiques présentes ce soir. Et alors, pour savoir ce que vous avez choisi, Anna Sigalevitch, ce que vous avez choisi de Charlotte Delbault.
De Charlotte Delbault, qui est une pièce écrite en fait en 67, qui n'avait pas été publiée au moment de sa création. 10 ans plus tard, France Culture a fait une dramatique avec un extrait de cette pièce, une scène centrale du texte, qui a été publié en 95, et en fait c'est seulement il y a 5 ans, donc en 2011, que le texte a été édité dans son intégralité. C'est un très beau texte, extrêmement accessible aussi, il est en fait, il a aussi été remis au goût du jour parce qu'il a été il a fait partie du programme du brevet des collèges. Qui est construit en deux temporalités, à Athènes, 20 ans après la guerre, à la terrasse d'un café où le personnage de Françoise, qui est un peu le personnage autobiographique de Charlotte Delbault, qui est une ancienne résistante, rescapée des camps, dont le mari a été assassiné, rencontre Werner, un Allemand qui l'aborde parce qu'elle lit un texte dont il est l'auteur. Voilà, et puis il y a une discussion qui va commencer entre eux, qui va devenir musclée, puisque Werner, sans avoir vraiment été nazi, a été comme officier dans l'armée allemande. Et ce qui est interrogé, comme dans beaucoup de l'œuvre c'est vraiment au centre de l'œuvre de Charlotte Delbault, c'est à la fois la part de responsabilité individuelle et comment parler d'une mémoire commune quand via des trajectoires qui sont complètement opposées entre les deux personnages. Et l'autre temporalité du spectacle, c'est un flashback qui met en scène donc Françoise et son mari lors de leur dernier rendez-vous, jusqu'avant leur dernière rencontre à la prison de la Santé, juste avant qu'ils soient fusillés. Alors il y a un mélange de registres qui est à la fois autobiographique, fiction, poésie, théâtre. Il y a quelque chose d'à la fois très concret et en même temps d'extrêmement poétique et introspectif dans ce texte, qui est en tout cas d'une vitalité incroyable, qui est vraiment très très beau. Alors moi je n'ai vu que la maquette du spectacle, parce que ça se joue là en ce moment, mais je suis pas encore allée le voir, mais la maquette était vraiment intéressante. Je crois que ça a pas mal évolué. Et puis ce sont des acteurs donc différents qui incarnent les différents âges. Il y a notamment Olga Grimbert qui incarne Françoise quand elle est grande, dans les années 60. Et puis c'est un théâtre qui est très incarné. Le metteur en scène Boris Hirschborn, j'espère que je prononce bien, vient de la danse et il a vraiment souhaité mettre en scène un décor très expressif pour qu'on ressente l'élan de vie hein, qu'il y a dans la langue de Charlotte Delbo et dont elle a fait preuve tout au long de son existence. Donc je pense que c'est un spectacle intéressant à découvrir.
Ceux qui avaient choisi Charlotte Delbo, c'est au théâtre de la Contrescarpe jusqu'au 6 juin. Il ne faut pas tarder. Autre ambiance avec Pierre Note, Ma folle otarie, au Lucernaire, Fabienne Pascaud.
Oui, voilà, un conte fantastique. Alors Pierre Note, il écrit beaucoup, hein, il écrit
on
peut-être
le joue
trop.
Beaucoup mais... quand il se met pas lui-même en scène.
Exactement, mais il a du talent, il a une verve, il a un langage, il a une poésie. Et là, c'est un monologue interprété plutôt très bien par Brice Hilairet que Pierre Note met en scène. Alors c'est une histoire complètement farfelue d'un pauvre type qui est agent de voyage, totalement anonyme, banal et ordinaire, que personne ne regarde d'habitude, et qui se met à avoir des fesses énormes. Des fesses de plus en plus grosses, 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 qui le font s'envoler. Alors, c'est à la fois rabelaisien, kafkaïen, parce que c'est pas facile d'avoir des si grosses fesses. D'abord, tous ces pantalons craquent, et puis tout le monde le regarde. Et ce pauvre garçon que personne ne regardait, eh ben, il découvre tout à coup le regard de l'autre, et ça devient quelque chose d'un peu magique, parce qu'il va découvrir l'amour aussi, lui qui avait une vie destinée à la tragédie ordinaire avec des histoires épouvantables, ben il va apprendre à être heureux. Alors donc c'est un conte comme on peut les aimer, sur la différence, la difficulté d'être soi, la difficulté de sortir de l'anonymat, d'avoir aussi son quart d'heure de célébrité, d'en profiter. Le tout est très très joliment joué. Alors, ce qu'a demandé Pierre Note à son comédien, c'est de ne pas sortir d'un carré dessiné à la craie qui doit avoir un mètre de côté. Donc c'est vraiment un exploit. Alors de temps en temps...
C'est au paradis du Lucernaire.
C'est au paradis.
Mais c'est souvent, hein, parce qu'on avait vu Jean-Quentin Chatelain, lui, dans un petit volcan, sans bouger.
Exactement. Et donc c'est délicieux.
C'est délicieux et ça dure.
Et tout simplement délicieux,
que vous avez
et ça dure
votre
une heure. c'est doublement délicieux.
J'étais sûr que c'était l'argument final pour vous,
c'est
Fabienne.
C'est une belle histoire qu'on vous susurre à l'oreille et ça fait plaisir.
Bon, Ma folle otarie de Pierre Note, mise en scène donc de Pierre Note, c'était au Lucernaire, jusqu'au 24 juin.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et suite de cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant, avec la reprise d'un spectacle que j'avais vu à sa création en 2002, et puis un petit peu plus tard je l'avais revu, et en tout cas il était resté bien ancré dans ma mémoire, Médée Matériaux d'Heiner Müller, mise en scène Anatoly Vassiliev avec Valérie Dréville, seule en scène, assise sur une chaise, avec un texte qui revisite donc cette terrible histoire de Médée qui a trahi les siens par amour pour Jason avant que celui-ci ne la trahisse à son tour, par amour pour une autre. Chez Heiner Müller, Médée fait le récit de son drame à ses enfants, dont nous connaissons a priori le sort funeste à venir. Avec Anatoly Vassiliev, on sait qu'il y a trois intonations, exclamative, narrative et affirmative, intonations qui sont comme les notes d'une partition chantée, interprétée par Valérie Dréville.
Maintenant, pars pour tes nouvelles noces. Jason, transformé la fiancée en torcha nuptiale. Maintenant, votre mère va offrir un spectacle.
Intonation affirmative, disiez-vous Anna Sigalevitch,
oui,
pour ce spectacle.
Alors, si j'ai bien compris, hein, parce que c'est pas très simple, mais il me semble qu'en effet, il considère que Médée, dont le contenu est métaphysique, ne peut être transmis de façon narrative, et donc c'est l'intonation affirmative, hein, celle qui ne raconte pas, mais qui va en bas, dans la terre, qui est importante pour Médée. Voilà, si j'ai bien compris. Alors, il faut quand même expliquer que le spectacle ne commence pas avec le texte de... incarné par Valérie Dréville. Mmh. Donc quand on arrive au Théâtre des Bouffes du Nord, moi j'ai découvert le spectacle, hein, je l'avais jamais vu avant. Il y a une estrade en bois, en croix, qui est installée avec un écran relativement simple, un tabouret à l'avant-scène sur l'estrade, puis un tout petit tabouret en bas, et une grande chaise avec une bassine et des instruments, voilà, voilà, qui vont servir à certaines choses. Quand le spectacle commence, c'est d'abord le texte qui s'affiche, en silence sur l'écran, comme vraiment les pages d'un livre. Hein, c'est très simple, c'est pas du tout sophistiqué comme, comme dispositif de vidéo à ce moment-là, et tout le texte défile. Donc ça dure un moment. Et je dois dire que alors, on a vu ça 50 fois, tadada. Moi j'ai beaucoup aimé ça là, ça m'a énormément plu parce que ce texte qui est quand même extrêmement puissant, c'est agréable de rentrer dans ce spectacle comme ça, c'est comme une sorte d'échauffement mental, une mise en condition qui permet ensuite, quand la langue s'incarne, que le spectateur soit prêt à l'accueillir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le temps, le silence, le calme de ce texte en entier qui s'affiche. Puis entre Valérie Dréville, donc on a entendu hein, comme elle parle, elle s'installe, elle a une robe géométrique avec du vert, du bleu, bon, je ne me rappelle plus des couleurs, je sais qu'il y a du vert. Elle s'installe en scène sur le tabouret, les jambes écartées. C'est une présence très très particulière qui est, on peut dire, une sorte de Bouddha, enfin, à la fois très très ancrée dans le sol, en même temps comme une grande prêtresse. Enfin, on sent, elle est déjà à la fois très ancrée, très présente, et en même temps totalement barrée dès qu'elle entre en scène. Voilà. Alors, je dois dire que moi, j'ai assisté à une représentation particulière du spectacle qui altère, je pense, en tout cas, ma perception, enfin, en tout cas, qui a influencé ma perception. Parce qu'il y avait beaucoup d'adolescents le soir où j'y suis allée. Et quand elle a pris la parole avec cette voix comme ça qui vient des tripes, cette espèce de râle, de choses quand même très 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 particulières, radicales et extrêmes, comme on l'a entendu, a déclenché des fous rires. Voilà, des fous rires, mais vraiment des fous rires, quoi. C'est-à-dire que ça a commencé. En plus, ils étaient éparpillés dans la salle, donc c'était ingérable. Donc ça a commencé d'abord à court, deux qui comme ça, puis ensuite à jardin. Il y avait deux petits au premier rang qui étaient au premier rang en plein milieu, dont les épaules se sont agitées pendant quasiment tout le spectacle. Une femme qui s'est énervée, ma voisine qui s'est énervée contre moi parce que je prenais des notes. Enfin, je veux dire, il y avait.
Mais est-ce une représentation particulière?
Voilà. Toi, alors, je ne sais pas comment c'est, mais en tout cas, il y avait une telle électricité dans la salle que c'était extrêmement compliqué de rentrer dans ce spectacle. Donc, je dois dire que je l'ai observé avec fascination, admiration. Mais Vassiliev dit que c'est un spectacle qui doit se sentir presque physiquement, qu'on doit se sentir presque physiquement emporté et être vraiment dedans. Voilà, moi je n'ai pas ressenti ça. Est-ce que c'est parce qu'il s'est passé ça ce soir-là ou est-ce que je ne serais pas rentrée? De toute façon, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, ça m'a vraiment mise à distance et j'ai regardé comme un objet passionnant. Voilà, mais presque comme un objet encore plus intéressant après, c'est-à-dire dans ce qu'il reste que dans ce qui se passe au moment où on le voit.
Bon. Oui, voilà. Non, mais j'entends bien, mais ma question n'était pas complètement innocente. Je ne pense pas qu'il y ait des représentations particulières, ou alors elles le sont toutes peut-être. Fabienne Pascaud, quelle expérience avez-vous eue?
Moi, je n'avais pas vu le Médé Matériau quand ça avait été créé, parce que j'avais eu une très très mauvaise expérience avec Vassiliev, que j'avais interviewé, je m'en souviens, en 1992 pour le Bal Masqué à la Comédie Française.
C'est là où il a rencontré Valérie Dréville.
Voilà, d'ailleurs. Et qui était une sorte de gourou effroyable. Et quand j'étais arrivée, enfin j'étais avec mes questions avaient dû lui sembler si bêtes qu'il m'avait balancé toutes ses brochures et tous les papiers qu'il y avait dans la pièce
c'est
à la figure.
Vrai. Ah oui, donc bien ça
donc,
calme.
Donc je me suis dit, mais des matériaux, non. Et je dois dire que j'ai été fascinée par le spectacle. Et j'y allais vraiment...
En méthode Pascaud à reculons.
En méthode Pascaud à reculons. Et effectivement, moi, les gens ne riaient pas, mais beaucoup sont partis.
Ah oui.
Beaucoup sont partis. Je pense que c'est un spectacle qui fait peur, de toute façon. Moi, j'ai eu l'impression d'assister à une expérience de chamanisme, quoi, vraiment, où elle, avec la voix seule. Alors, bon, les théories, vous les évoquiez un petit peu au début, Anna de Vassiliev. Moi, je trouve ça insupportable, cette manière prétentieuse de enfin, bon, si bon, ça aide les acteurs.
C'est le résultat qui compte.
C'est le résultat qui compte.
Là,
c'est ce que j'allais dire. Et là, ça m'a fascinée parce que cette voix que Valérie Dréville décrit dans le programme, comment elle travaille. Alors en fait, elle travaille de manière totalement scientifique, chimiste presque, puisque il paraît que Vassiliev est un ancien chimiste, comme une construction géométrique dans l'espace. Mais elle arrive à créer chez le spectateur vraiment le sentiment qu'il assiste. Pas à un rite, mais qu'il est entraîné par la comédienne dans un ailleurs qui a à voir avec les origines de l'humanité, les origines de la féminité, les origines de la maternité. Et en même temps, ce texte, je suis comme Anna, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et à me le mettre en tête, parce qu'il faut bien dire que, de toute façon, c'est une nécessité, parce qu'on comprend pas un mot de ce qu'elle dit, quand même, Valérie Dréville. Mais ça n'ôte rien à la beauté de la chose. Oui. Ça n'ôte rien. Oui, des
bribes.
Et c'est très bien de l'avoir lu avant.
Mais c'est très bien de l'avoir lu. Ça, c'est très bien pour. C'est bien fait. Et quand commence le spectacle, elle ne reconnaît même plus Jason. Donc, elle est par-delà. Elle est au-delà de tout. Et de toute façon, elle sera pardonnée, parce que dans le mythe, elle s'élève dans les cieux, hein. Donc cette fille qui a trahi pour l'homme de sa vie, Jason, qui a trahi son père, qui a tué son frère, elle l'a coupé en morceaux, elle a tout fait pour suivre cet homme et qui est trahi, ça devient un morceau de détresse à l'état brut. Et la manière dont elle tue ses enfants à la fin, avec lesquels elle semble jouer, on a l'impression qu'elle les libère de ce fardeau terrible qu'est la vie. Donc c'est bouleversant. Et moi, ce que j'ai aimé dans le jeu de Valérie Dréville, qui est une comédienne exceptionnelle, elles sont pas nombreuses, celles qui arrivent à nous faire partager cette émotion-là et à nous entraîner dans ce voyage mythologique par-delà les siècles et l'espace, eh bien c'est qu'elle a parfois des souvenirs, des sourires complètement enfantins.
Deux fois.
Hein, deux fois.
Deux fois, absolument.
Une petite fille. Ouais. Et alors là, on se dit, mais qui c'est, quoi?
Où le visage est lavé de tout ce qui s'est passé. C'est
voilà.
Très étrange.
C'est très étrange. Vous l'avez ressenti aussi?
Ah oui, je l'ai noté. Ah bah, complètement, les deux fois, quand elle regarde et qu'elle sourit comme
qu'elle
un enfant,
sourit.
C'est très, très troublant.
Elle arrive à être vieille, jeune, enfin, elle est magnifique.
Alors, c'est vrai que, comme vous, je ne suis pas spécialement adepte de cette méthode Vassiliev et de ce qu'il représente. Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer deux fois sans qu'il me jette rien à la figure.
Vous avez beaucoup de chance.
C'est peut-être parce qu'on était à la radio. Allez savoir. Moi, ça s'était bien passé. Peu importe. Mais il y a des spectacles de lui dans lesquels, pour le coup, je ne suis pas du tout rentré. Par contre, j'ai un très bon souvenir de Thérèse Philosophe, où il y avait également Valérie Dréville et Stanislas Dorandé, au mieux, à mon avis, de ce qu'il peut être comme acteur. Et c'était un très, très grande interprétation. Et nous avons la chance de voir quand même beaucoup, beaucoup de spectacles. Il y en a quand même quantité dont je vois les titres sur mon agenda que j'ai totalement oublié. Celui-là, je ne l'ai jamais oublié. Alors même que pendant le temps de la représentation, Anna, moi, je n'étais pas certain d'adhérer, de comprendre, de ressentir tout à fait. Mais c'est quelque chose qui s'est imprimé d'une façon tout à fait indélébile. On pourra en reparler dans 15 ans.
Mais je suis sûre, on comprend ça deux jours plus tard.
Mais c'est quand même très mystérieux. Bien, toutes les très bonnes raisons que vous avez évoquées. Enfin, la première d'entre elles, c'est quand même Heiner Müller, qui est quand même un auteur prodigieusement profond, lumineux en même temps. Et il y a ça dans le spectacle aussi, dans cette interprétation. Il y a à la fois quelque chose d'absolument concret et en même temps de terriblement abstrait. Et c'est cette coprésence-là de l'abstraction et de la figuration, pour aller vite, que je trouve complètement fascinante. Anna?
Ah oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et puis c'est un spectacle, c'est un texte sur les traces qu'on laisse, sur les traces qu'on a en nous, et c'est mis en scène comme ça aussi. Voilà, c'est-à-dire les traces du texte, quand il n'y a plus que la matière, le son, etc., de ce qui est dit, qu'est-ce qui reste en nous de ce qu'on a lu et qu'est-ce qui restera en nous après. Parce qu'il y a quelque chose qui est au-delà, comme vous le disiez, Fabienne, au-delà de l'émotion, au-delà de la souffrance, au-delà, enfin, par-delà. C'est-à-dire, c'est pas au-delà, c'est par-delà. Enfin, c'est vraiment quelque chose sur la transfiguration, sur tout ça, et le retour aux origines. C'est vrai qu'il y a quelque chose sur la maternité. Elle a une façon d'avoir ses jambes écartées et de se dénuder qui est aussi par-delà quelque part la féminité. On a, enfin, c'est
il y a quelque chose.
Oui, d'ailleurs, elle a un sexe au départ qu'elle enlève ensuite. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'originel. On a l'impression de voir une statue, de voir un mythe vivant en face de nous. C'est très très impressionnant. C'est très troublant. Et alors, on peut trouver, je sais pas, moi, je dis pas que j'adhère non plus à la théorie de Vassiliev. Enfin, mais là, il y a quand même quelque chose de concret sur le son, sur le travail, sur le son, sur quelque chose qui est dépsychologisé, en tout cas, hein, où c'est le son vidé du contenu qui provoque de façon presque mécanique et en tout cas énergétique l'état ou inversement, bon, ça, après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça provoque en tout cas quelque chose chez l'actrice, et ça lui fait traverser un parcours, et ça lui donne des outils qui sont quand même, je trouve, palpables en scène et du coup très 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 originaux et inattendus, quoi.
Fabienne.
Oui, bien sûr, c'est par le son qu'il arrive à tout ça. Puis la matière aussi, la manière dont elle se maquille, se couvre de blanc comme un acteur de Nos ou une statue africaine, on ne sait pas.
Oui, enfin, c'est de la glaise, c'est voilà, tout à la fois.
Elle se sculpte, elle joue avec la matière et on se rend compte que la matière, ben, elle est parfois plus forte que l'esprit, quoi.
Ah, voilà, il faut s'arrêter sur cette phrase. Hein.
Mais définitive.
Bon, définitive. Bon, pour ce soir, en tout cas, et sur ce spectacle. Mais en tout cas, vous voyez, Anna, malgré toutes ces contingences extérieures, ce que vous dites ce soir prouve la force de réception quand même. Et d'émission.
Ouais, le pouvoir de oui, de la force d'émission, surtout. Ouais.
Et de réception par vous. de ce Médé Matériau, vraiment, si vous pouvez voir ce spectacle, ne le ratez pas. C'est un texte d'Ainer Müller, une traduction de Jean Jourdeuil, mise en scène par Anatoly Vassiliev avec Valérie Dréville. C'est à l'affiche du Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'à samedi prochain, le 3 juin. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil, passez à Louise Van Est, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu de vendredi soir. Et Justine Dibling nous rejoint, puisque c'était la porteuse de bonnes nouvelles. D'abord, rappel de la question et puis la réponse, Justine.
Donc, quel festival a lieu tous les étés à Grignan depuis 1996, célébrant dans tout le village et son château l'art épistolaire, si cher à Madame de Sévigné? La réponse était le Festival de la Correspondance de Grignan.
Et on fait gagner ce soir des invitations pour le spectacle Amphitryon, donc, de Molière, dimanche 4 juin à 17h. Ce sera la Grande Écurie de Versailles dans le cadre du Mois Molière. La question, Justine.
Malgré le succès mitigé de cette pièce, Amphitryon de Molière a fait l'objet de plusieurs réécritures contemporaines, dont Amphitryon 38 en 1929. Qui en est l'auteur?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute passé par Boris Pinault.
Hello.
Et ce soir, direction la Seine-Saint-Denis où se dérouleront jusqu'au 17 juin les rencontres chorégraphiques internationales. Le coup de fil est passé à Louise Van Est, dont la pièce Terrian sera créée à la Chaufferie de Saint-Denis ce samedi. Bonsoir Louise Van Est.
Bonsoir.
Vous êtes chorégraphe et vous signez donc cette pièce. Terrian vient de terrianthropie, qui évoque la capacité d'un être humain à se transformer en animal dans un cadre mythologique. Solo pour deux interprètes, c'est la curieuse précision qui accompagne le titre de votre création. Les interprètes, ce sont donc vous, Louise Van Est et Younes Koukou. Comment vous la mettez en scène, cette proposition-là d'un solo pour deux interprètes?
En fait, on a travaillé sur l'idée d'accepter qu'il y avait un solo qui démarrait, et puis une autre personne qui poursuivait ce même solo avec ses qualités différentes, évidemment. Donc l'idée est de n'absolument pas aborder le fait que ça change de personne, etc. C'est de rester sur une continuité, comme une vie, une histoire, une trame, mais assez subtilement et assez soudainement, la personnalité change.
Vous avez choisi de travailler sur la base d'une belle économie de moyens, scénographique notamment. La source d'éclairage essentielle du plateau provient d'une photographie dont la projection sur un écran constitue le choix scénographique le plus clair et le plus manifeste. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette image, la décrire peut-être, et du choix de ce dispositif-là ?
En fait, ça fait plusieurs années que je travaille avec l'artiste plasticien Arnaud Gernier, qui dans son travail personnel fait des installations avec de l'éclairage et fait de la photo. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question de la narration, de la non-narration, du fait de faire quelque chose mais de ne pas dire quelque chose, d'être plutôt dans le faire, dans l'acte, de proposer un acte artistique, de poser un acte artistique sans à tout prix avoir une thématique, un sujet à aborder. Et donc on était toujours dans un rapport assez abstrait à la lumière, mais cette question de la présence narrative venait, souvent me revenait en mémoire, et là comme j'ouvre un cycle en lien avec la littérature pour mon travail chorégraphique, j'avais envie de convoquer une image, donc une image porteuse d'une certaine narration. Et Arnaud Gernier faisait à ce moment-là des photographies des bases sous-marines en France. Et donc nous avons choisi une base sous-marine, une photo d'une base sous-marine qui à la fois est évocatrice de quelque chose d'assez géométrique, assez abstrait, mais en même temps d'extrêmement humain en fait.
Vous le dites dans le dossier du spectacle, la question de la représentation et de l'intention vers le spectateur est cruciale dans votre travail. Comment est-ce que vous l'avez pensé, ce rapport-là, sur la pièce que vous présenterez samedi ?
Alors l'idée était de partir des parades d'oiseaux. Je trouvais fascinant le fait que certains oiseaux, en l'occurrence beaucoup les oiseaux du paradis, créent un espace presque scénique en fait. Donc il crée, il scénographie un espace où il rassemble des éléments d'une même couleur qu'ils vont trouver dans la nature par exemple. Et donc ils vont tenter de créer cet espace le plus beau et le plus attirant possible pour pouvoir à ce moment-là faire une parade à la fois physique et chanter pour attirer soit le mâle, soit la femelle selon les espèces. Et donc j'étais assez fascinée par ce rapport finalement à la fois mécanique, parce que voilà, c'est instinctif, c'est dans l'animal, il ne pense pas cette idée-là, et en même temps c'est extrêmement construit, et c'est dans l'idée vraiment de présenter quelque chose et d'attirer la personne. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une corrélation évidemment avec l'idée de la scène. Et j'aimais bien j'étais attirée par ce rapport direct avec le public.
L'observation, justement, enfin l'étude de ces parades d'oiseaux, ça vous a inspiré également pour la production du vocabulaire chorégraphique de cette pièce-là ?
Oui, ça nous a beaucoup inspiré. Évidemment, on est parti d'abord dans des espèces de caricatures et dans l'idée de faire l'oiseau. Mais petit à petit, on va dans un processus où d'érosion ou alors d'appropriation de ce vocabulaire au départ très cliché. Et de là, on peut partir dans quelque chose de plus sensible, dans une écriture chorégraphique, dans une dynamique particulière et dans une présence à soi particulière aussi.
Je le disais tout à l'heure, le titre de votre création, c'est Terrien. Ce titre évoque la métamorphose de l'homme en animal. On peut aussi dire que votre compagnie s'appelle Rising Horses, qu'on pourrait traduire par le soulèvement des chevaux. La danse, c'est quelque chose qui part de l'animalité pour vous ?
Je pense qu'il y a une part de moi quand je danse qui se perd, une part d'une espèce de conscience qui se perd et qui donne place à ce rapport instinctif, assez direct du corps. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse, c'est là-dedans que j'ai du plaisir aussi, et c'est là-dedans que je pense que je peux proposer quelque chose d'appréhendable et d'un peu mystérieux à la fois pour le public. Oui, ce rapport à l'animal, il est très présent, sans vouloir devenir l'animal réellement.
Merci beaucoup Louise Van Est. Votre pièce Terrien sera donc créée ce samedi le 3 juin à la Chaufferie de Saint-Denis. Elle s'y jouera également le dimanche 4 juin, le tout dans le cadre des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Merci et belle soirée à vous.
Merci, belle soirée.
Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de la dispute. Vous pouvez également nous écrire sur ce site. Vous pouvez nous écrire aussi via la page Facebook La Dispute FC, le Twitter Dispute FC. Nous vous donnons rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux séries. Je serai en compagnie d'Iris Bray et Romain Burel. À notre affiche, Twin Peaks saison 3 de David Lynch et Mark Frost. Sense8 saison 2 de Lana Lily Wachowski et Joseph Michael Straczynski. Et puis Le Bureau des Légendes, c'est la saison 3, la série d'Éric Rochamps. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.